La main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Jardinier de Versailles, faut-il le rappeler.
Et on passe d'Alain Delon à Alain de loin et de très très loin.
Pourquoi pas, je le note. Alors les plantes, Alain Baraton, les plantes sont capables de s'adapter à leur environnement.
Mieux encore, elles sont capables de le percevoir. Et j'avais ici même donné comme exemple celles qui vivent dans les zones très ventées du littoral comme en Bretagne. Pour mieux résister aux rafales, les plantes modifient leur manière de se développer, raison pour laquelle les arbres dans ces régions sont de petite taille. Si ces mêmes végétaux étaient replantés à l'intérieur des terres, ils retrouveraient quelques années plus tard leur hauteur d'origine, ce qui atteste qu'ils possèdent donc de réelles capacités d'adaptation à leur environnement.
Les plantes pourraient aussi se souvenir de périodes difficiles ?
Je vous le confirme, les arbres, nous en avons déjà parlé, sont sensibles au stress. Alors je cite souvent le cas du stress hydrique qui met en panique une plante quand elle manque d'eau. La réaction de l'arbre ou de l'arbuste varie alors bien sûr en fonction des variétés, mais très souvent ce stress fatigue la plante et favorise l'apparition des maladies. Une étude récente indiquerait que la plante pourrait garder en mémoire ce stress et s'en souvenir la fois suivante.
J'en déduis donc qu'en faisant ainsi, le végétal anticipe les problèmes ?
Vous en déduisez avec raison. Les plantes se souvient de ses problèmes, par exemple une sécheresse, et va ainsi réduire ses besoins en eau sitôt la difficulté annoncée. Mais, et c'est incroyable, la plante serait même capable de transmettre cette mémoire du stress. Hervé Lévesque précise dans l'admirable revue, et quand je dis l'admirable revue, le mot est faible, revue du monde végétal parue en septembre, La Garance Voyageuse, voilà ce qu'écrit Henri Lévesque. Des chercheurs travaillant sur l'espèce modèle l'Arabidopsis thaliana viennent de montrer qu'en modifiant l'expression d'un unique gène, il est possible de provoquer dans la descendance des plantes une mémoire de stress transmise à travers les générations, mais chez une partie seulement des descendants.
Et toutes les plantes se comportent ainsi ?
Peut-être, mais l'étude ne porte que sur l'Arabidopsis ou Arabette des dames, une herbe dite mauvaise qui pousse souvent sur le bord des chemins. Alors les plantes ont de la mémoire et demain peut-être, eh bien, elles la lègueront à leur descendance. Et nous autres humains avons quand même beaucoup de mal à faire ainsi. Mais il est vrai que l'étude écrite par cet homme, Henri Lévesque, journaliste, est magnifique. C'est peut-être une méthode demain, peut-être, pour contrer les OGM, parce que là, ce serait une transmission un peu plus naturelle.
Conseils et vos réponses aux auditrices et auditeurs de France Inter. Suzanne vous demande, Alain Baraton, pourriez-vous me dire pourquoi mes hypomées ont décidé de fleurir seulement à l'automne et plus rien en été?
Parce que l'hypomée est une plante libre qui est un petit peu une sorte de, on l'appelle le liseron bleu. C'est une plante volubile qui fleurit en temps normal de mai à octobre. Pour peu que l'arrière-saison soit belle, l'hypomée a envie de profiter encore un petit peu du soleil, donc il n'est pas étonnant que des hypomées, pour peu que le gel ne soit pas encore intervenu, fleurissent encore, donc ne vous inquiétez pas, tout est normal.
Marie-Odile voudrait savoir quel est le meilleur mois pour enlever un hortensia d'un jardin et le replanter dans une autre propriété.
Toutes les plantes, je dis bien, toutes les plantes, sans aucune exception, j'entends par plante, les plantes arbustives ou les arbres, se transplantent entre le début du repos végétatif et la reprise printanière. Ce qui veut dire qu'entre maintenant et le mois d'avril-mai au plus tard, il est donc possible de transplanter sans difficulté un hortensia. J'en profiterai pour préciser qu'à ce moment, on en profitera pour justement réduire un petit peu sa voilure et couper de manière assez drastique ses branches.
Je peux poser une question, monsieur vous, s'il vous plaît. Monsieur Baraton, on peut planter des hortensias en été ?
Alors, on peut les planter à condition qu'ils étaient en conteneur. Si on le plante en conteneur, on peut le faire. Mais attention, cela réclame
beaucoup
d'arrosage. Ouais. Parce qu'en hiver, si vous plantez l'hortensia maintenant, il a le temps de s'adapter tranquillement. Il va s'acclimater au sol. Si vous le faites en été, pour peu qu'il y ait un coup de chaleur, il aura vraiment besoin d'eau. Et si vous n'êtes pas là, vous êtes parti pendant quelques jours, c'est la catastrophe. En plus, l'achat en conteneur est un achat beaucoup plus coûteux. Donc, il faut toujours privilégier les plantations automne-hiver. Mais parfois, on est là qu'en été. Donc on le fait en été, bien sûr.
Je ne vous le fais pas dire.
Mais on prévoit vraiment beaucoup d'eau.
Sylvie, à propos de ces bougainvilliers sur son balcon, ils sont encore en fleurs et ont visiblement apprécié une petite coupe de fin d'été. Faut-il tailler à nouveau les branches jeunes, demande Sylvie, ou bien attendre la fin de l'hiver?
Sylvie, on se calme un petit peu avec le sécateur. Effectivement, on voit la plante fleurir, elle est belle, on l'a un petit peu taillée. En fait, fleurir, c'est beaucoup plus complexe. Vous savez que le bougainvillier, en fait, ce sont des inflorescences. Et la plante, elle est magnifique, très bien. Mais n'oubliez pas que les fleurs, justement, apparaissent sur le bois de 2 ans. À trop le réduire, il n'y aura plus rien. Donc, d'ordinaire, un bougainvillier se réduit gentiment en automne ou en hiver. Donc on le fait maintenant, mais on évitera de le refaire en été. Juste une petite technique que les gens ignorent. Le bougainvillier, il produit des tiges un peu volubiles, c'est qu'il grimpe un petit peu dans tous les sens. Si vous prenez ces tiges et que vous les inclinez vers le sol, sachez que cela favorise la floraison. C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est une petite technique.
Vous les replantez, alors?
Non, vous les descendez.
Ah non, simplement. Comment vous faites sans les casser?
Ben non, mais c'est simple. Non, on le fait avec délicatesse, mais on le fait sans aucune difficulté. Les tiges se dirigent vers le ciel, faites en sorte qu'elles se dirigent vers le sol, et bien vous verrez que la plante va refleurir davantage vers le sol ou à l'horizontale. À l'horizontale, ça marche aussi très bien.
Ce que vous appelez les tiges volubiles, ce sont celles qui s'enroulent autour d'un support.
Vous l'avez parfaitement saisi.
On va terminer avec le conseil du week-end. Conseil lecture.
J'ai adoré. Mon arboretum, inventaire pas comme les autres d'arbres extraordinaires en France. David Lecharmeyer, et Claire Leroy. C'est tout simplement un livre à raconter aux enfants, et pas seulement d'ailleurs, sur les plus beaux arbres de France, l'occasion de faire son herbier. Il y a des histoires merveilleuses, il y a des dessins. C'est une occasion de s'adresser aux vieux arbres, d'apprendre quantité sur eux. Préface de Georges Fetterman, ça ne plaisante pas. Publié chez Magellan et compagnie, un très joli cadeau pour Noël.
Alain Baraton, je suis allé un peu vite, on a encore une question, je vais vous la poser. Françoise dit que l'automne est si doux que les bourgeons printaniers sont de sortie, ça menace l'avenir des végétaux. Que faire, demande-t-elle, pour endiguer la catastrophe qui s'annonce?
Il n'y a rien à faire, mais rappelez-vous que les bourgeons, contrairement à ce que l'on peut croire, sont déjà prêts en automne. Là encore, c'est tout à fait normal.
Alain Baraton, merci beaucoup et à demain.
À demain.